je peux suivre ce questionnement, une question méthodologique.
Oui.
Méthodologique. Le fait qu'il y a une telle variété, qui est sûre, qui
oui.
est très important, comme tu dis, me donnait à penser, me donne à penser, est-ce que ce concept peut perdre de sa valeur à cause de ça? Et là, ça m'amène vers une question sur la subjectivité. Quand les jeunes avec diplôme, mais qui ont un travail à mi-temps, et puis est-ce qu'ils se considèrent comme précaires? J'aurais pensé probablement que non. Ils peuvent décrire leur situation dans d'autres termes. Ils ne sont pas, bien sûr, ils n'ont pas un revenu élevé, stable, etc. Mais quand même, leur motivation, leurs ambitions, etc., se diffèrent beaucoup de ceux qui sont à peu près résignés en bas, si je peux dire. Et donc, les 11 questions que tu as choisies pour construire...
Oui, comme indicateur indirect. Oui,
indicateur.
On ne parle jamais de précarité. Il n'y a jamais le mot précarité.
Oui,
on demande juste de répondre à des questions qui sont dispersées dans le questionnaire.
Oui. Et c'est pour ça que je demande pourquoi c'est 11.
Pourquoi dit, parce
tu
que,
as choisi ces 11 parmi les centaines de
c'est
questions.
C'est pas moi qui ai choisi. Moi. Donc... en fait, ça remonte à 1998, donc c'est pas tout jeune. Et ils ont fait, pour les centres d'examen de santé de la Sécu, une grande enquête sur les facteurs de précarité sociale et de vulnérabilité sociale. Et là, l'enquête, il y avait une centaine de questions qui portaient sur chômage, statut, célibataire ou marié, patrimoine, enfin tous les indicateurs. Et tous ceux, ils ont retenu les 11 qui... structurer le premier facteur de précarité sur lequel tous ces facteurs auxquels tous ces facteurs contribuaient. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai refait des analyses factorielles aujourd'hui, et ça a bougé un petit peu, c'est revenus et logements qui arrivent en tête, mais je veux dire, sur la sécurité sociale, il y a des choses qui ont bougé, la CMU, il y a des choses qui ont évolué, mais quand tu travailles avec ces 11 questions, elles continuent à te donner un indicateur qui est plus large que celui de uniquement type de travail, chômage, revenu. C'est un indicateur synthétique. Et ensuite, je le déconstruis. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que je ne leur demande jamais s'ils se considèrent comme précaires. Ce n'est pas ça mon problème. Le problème, c'est de savoir s'il y a des indicateurs objectifs de précarisation. Et ceux qu'interroge Florence Joshua, il lui parle de la précarité de leurs conditions d'existence, mais personne n'a le sentiment d'être solidaire des autres. Moi, j'ai fait dans le livre sur les inaudibles, avec Nathalie Fuchs, le chapitre sur l'ethnocentrisme. C'est pas parce qu'on est précaire qu'on est solidaire des autres. On retrouve le travail d'Olivier Schwartz. Moi, je suis ouvrier. Attends, on me disait dans les enquêtes, aujourd'hui, les travailleurs pauvres, c'est eux qui avaient la plus grande hargne. Ils me disaient, moi, j'ai pas droit au RSA. Mais c'est dégueulasse. Ils me disaient... Ça me fait penser par ricochet à Hollande. Il me disait, aujourd'hui, un travailleur pauvre, vous le reconnaissez à ses dents, ceux qui sont au RSA, ils ont les moyens de se faire mettre un dentier. Et moi, je suis travailleur pauvre, j'ai pas les moyens. Donc les gens, il y a tous ces effets de seuil qui font qu'une catégorie de la population en veut, mais à mort, aux assistés, en disant, moi, mon mari, moi, j'ai pas droit, et c'est dégueulasse. Et donc, il y a ça, c'est tous ces facteurs de clivage interne font qu'il n'y a pas de solidarité. Et qu'on interrogeait une jeune femme issue de l'immigration algérienne et qui me disait qu'elle n'était pas du tout solidaire des jeunes immigrés. Ils sont insupportables, ces jeunes, ils foutent le bordel dans les cages d'escalier. Nous, on n'était pas comme ça à leur âge. Et puis d'autres qui nous disent, ah, puis les Roms, le maire de Saint-Denis, il fait des choses pour les Roms et il n'en fait pas pour nous. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est précaire et issu de l'immigration qu'on est solidaire des autres. C'est un mythe. La classe sociale des précaires. Il n'y a pas de précarité. Le résultat numéro un de cette insécurité sociale dont parle Robert Castel, c'est bien ça. C'est de fragmenter complètement. Il y a eu une époque où il y avait quelque chose qui ressemblait à un embryon de classe ouvrière. Pas tous les ouvriers, mais enfin, à la belle époque où Guy Michelat écrivait sur le nombre d'attributs ouvriers, ça c'est bien masculin, le nombre d'attributs ouvriers, être ouvrier, papa ouvrier, maman ouvrière, conjoint ouvrier, ça fait monter le vote de gauche, c'est surtout le vote communiste et le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière. Tout ça, c'est assez loin. Déjà en 1997, je trouvais que le nombre d'attributs ouvriers était un bien meilleur prédicteur du vote Marine Le Pen. C'était des jeunes ouvriers qui n'avaient plus d'avenir, qui étaient devenus ouvriers parce qu'ils pouvaient faire rien d'autre. Les vieux ouvriers, ils continuaient à voter pour la gauche ou bien ils votaient plus. Mais le meilleur travail, c'est celui de Florent Gougou sur les ouvriers, où il montre très bien l'évolution du vote ouvrier sous toute la Ve République. Et il montre très bien que le tournant se produit dès 1978. Il commence à décrocher les ouvriers. Et ils ont le sentiment de ne pas être représentés par la gauche. Et ce n'est pas les ouvriers vieux, c'est les jeunes, c'est les nouveaux ouvriers. Ce n'est pas les ouvriers de gauche, c'est les ouvriers qui se disent de droite. Et il y en a. Il y a des ouvriers de droite. Il y a le vieux travail de Capdevielle-Mouriot sur l'ouvrier conservateur. Mais il y a toujours eu des ouvriers de droite, soit par religion, soit par tradition familiale, soit par implantation locale. Donc il faut déconstruire la classe ouvrière, il faut déconstruire les précaires, qui n'est pas une classe. Et il faut voir que l'effet numéro un de toutes ces transformations, et encore je ne parle que de celle-là, on travaille actuellement sur la robotisation. Ben là, vous avez un nouveau facteur de clivage qui va être magnifique, parce que ce n'est pas simplement les ouvriers, eux, ils ont déjà été balayés par cette vague de robotisation. C'est maintenant des classes moyennes qui ont des diplômes, des gens qui travaillent dans des agences de voyage, des gens qui sont des analystes financiers. Il y a des tas d'algorithmes qui font ça beaucoup mieux qu'eux et qui vont... Et Marine Le Pen s'est déjà saisie mieux que Jean-Luc Mélenchon, qui avait des interrogations avant la présidentielle. En Hollande, aux Pays-Bas, ils sont déjà, l'extrême droite s'est déjà prise de ce sujet. Donc, toutes ces transformations du monde du travail qui répercutent sur les familles, tout ça fait que cette relative solidarité qui était en plus, il y avait des syndicats, il y avait un habitat ouvrier, il y avait un collectif et un sens du collectif. Tout ça s'est délité il y a très longtemps, et maintenant il n'y a plus grand-chose. Donc, moi, je suis sur la ligne déconstruisant. Mais il y a des choses à faire pour reconstruire la solidarité. Il y a un immense champ de choses à reconstruire.
Moi, j'avais une question pour vous deux à propos de la notion de, justement, opérationnelle, du concept, de la notion de précarité comme déterminant, justement, de façon relative, quand même un certain type de comportement. La décomposition ou la destruction montre que les comportements collectifs ou les sentiments d'appartenance tels qu'ils existaient non seulement se fragmentent, mais provoquent des réactions extrêmement diversifiées dans un même contexte général. Ceci dit, est-ce que le sentiment de précarité est le même dans les deux pays eu égard à l'histoire de ce qu'on pourrait appeler les statuts sociaux dans ces deux pays dans le passé? Est-ce que, par exemple, la précarité, elle a un effet très fort sur, par exemple, la classe ouvrière américaine qui avait des statuts relativement identifiés, préservés ou stables, mais d'autres catégories, d'autres que la très grande industrie, n'avaient pas la politique, disons, de protection sociale générale ou globale associée à l'existence d'un travail stable n'existait peut-être pas de la même manière aux États-Unis. Et donc la précarisation, est-ce qu'elle est ressentie de la même manière aux États-Unis qu'en France? Et est-ce qu'elle a les mêmes effets sociopolitiques? Ou alors, on peut dire les choses autrement, on a souvent employé en sciences politiques ou sociales l'idée, en général, que la France avait connu une évolution sociopolitique ou même de ces catégories, justement, avec des effets de décalage fort de la France par rapport au reste de l'Europe et de l'Europe par rapport aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on est simplement dans un effet d'américanisation, entre guillemets, de la société française, où, malgré ces ressemblances ou ces proximités qui nous aident à comprendre des choses, malgré tout, est-ce qu'il y a... je reste sur le terme de précarité, hein, parce qu'autrement, dans tous les sens. Mais est-ce que le concept, la notion, fonctionne du point de vue politique, avec toutes les remarques que vous avez faites, de prudence et de risque, enfin, pas de risque, mais de la nécessité de ne pas monter en généralité comme facteur unique, causal unique? Malgré tout, il y a quand même là un indicateur fort. Voilà. Ma question est un peu terrible, mais...
Non, au contraire. Je dirais que tu parles des États-Unis.
Il y aura une intervention de Guy Groux dans quelques mois dans ce séminaire sur l'américanisation des rapports sociaux dans l'entreprise. Oui. je crois, avec un point d'interrogation, parce que lui, il met
non.
ça.
Donc,
que c'est dans, c'est pas dans le titre. Et donc, il faut revenir pour ça, et pour quelqu'un qui connaît bien la matière, qui ne pense pas qu'il y a ce déterminisme, si on veut, dans ce sens précis. Pour la question plus générale que tu as posée, moi, je dirais, hélas, que oui, les États-Unis sont en avance dans un certain sens parce qu'il y avait beaucoup moins de protection sociale, beaucoup moins de couverture syndicale, beaucoup moins de solidarité au travail et peut-être en dehors aussi, chez nous, avec une pensée unique, dominant, assez fort, libéral. Et donc, et par exemple, sur le vote, quand tu parles d'abstentionnisme, on était à déjeuner, nous avons parlé du fait que ce sont des proportions phénoménales chez nous, même pour les élections présidentielles, même pour tout le monde, et surtout plus de 200, plus grand l'abstentionnisme. Et donc, j'aurais tendance à craindre que les États-Unis sont en avance dans un certain sens néfaste pour la voie que l'on a à tracer. Ça, c'est très grosso modo et je n'ai pas fait des études comme toi. Tu as très
qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Je n'ai pas fait des études.
Mais je veux dire, ça serait une étude comparée qui vaut la peine, je crois.
Moi, il me semble que c'est effectivement compliqué de... On n'utilise pas le mot « precariousness ». J'ai eu du mal à l'imposer. C'est déjà, sauf le « guy standing » là en Angleterre, mais l'Angleterre, c'est plus proche de nous que les États-Unis. Il parle de « new precariat ». Mais ce n'est pas un mot. On préfère parler de pauvreté. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. Justement, c'est plus restreint. Les inégalités ont été très vite et beaucoup plus fortes aux États-Unis qu'ici. La montée des inégalités, elle est bien avant chez nous. Ils sont en tête avec Israël et avec d'autres pays, les démocraties occidentales. Les démocraties, bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est pas exactement le... On s'intéresse beaucoup plus aux inégalités aux États-Unis qu'à la précarité. C'est pas exactement le même angle d'approche. Absolument. Donc, par ailleurs, il y a tu l'as dit, il y a moins confiance en l'État aux États-Unis. Ça, depuis la guerre, on voit qu'il y a une chute. C'est fini le plan, l'époque du New Deal. Donc, et les Républicains savent très bien jouer là-dessus. Et il y a un rôle important des associations caritatives, beaucoup plus important aux États-Unis. Donc, c'est leur amortisseur. Nous, notre amortisseur, c'est l'État, parce qu'on reste un pays qui doit consacrer quelque chose comme un gros tiers du produit national brut aux dépenses sociales. Donc, avec la nuance, il y a le problème des outsiders. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un statut, des salariés avec un statut, qui, eux, ont une protection sociale bonne, et d'autres, les outsiders, qui ne l'ont pas, et où sont surreprésentés les femmes, les jeunes et les personnes issues de l'immigration. Et enfin, aux États-Unis, il y a la question noire que tu as racontée, qui fait qu'il y a déjà quelque chose au départ. Mais donc, je pense qu'on analyse, il y a des phénomènes du même genre. Peut-être le mot « social insecurity » ou « economic insecurity » serait mieux. Et moi, ça me va. Moi, j'emploie en fait assez souvent l'un pour l'autre, mais j'aime bien les travaux de Castel. Et il y avait le détricotage. On n'a pas la même chose à détricoter des deux côtés des États-Unis.
J'avais une deuxième question sociologico-politique, c'est le rapport à propos de la métropolisation d'un côté et la question des territoires dits périphériques. En France, dans l'analyse du vote, dans les dernières années, ces variables spatiales, sociologico-spatiales, sont apparues comme assez, disons, pertinentes pour penser des différences complémentaires, y compris par rapport au statut, au revenu. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas exactement comme ça aux États-Unis. Pour des tas de raisons historiques, géographiques, la notion de centre et de périphérie, même par rapport aux métropoles, la notion même de métropole, mais quand même, il y a la question du vote des grandes villes, et là, dans le clivage Trump, c'est entre des États très urbanisés, avec de grandes villes, de grandes métropoles, et alors est-ce que, en fait, c'est un biais peut-être trompeur, puisque quand même, dans les grandes métropoles, il y a les couches sociales les plus éduquées, les mieux intégrées dans l'activité économique, mais aussi des populations urbaines pauvres qui sont dans les grandes métropoles ne se comportent pas forcément comme des classes moyennes ou des gens au statut précarisé ou difficile dans les périphéries. On l'a remarqué, il y a eu toute une série d'études multiples sur la France, mais je voulais savoir si cette variable spatiale, socio-spatiale, socio-urbaine en quelque sorte, de la grande, de la petite, de la ville dégradée par rapport à la ville dynamique aussi, parce que la ville touchée par la... parce que la notion de périphérie est très très dangereuse. Je pense qu'elle est extrêmement dangereuse. Ouais. Et les généralisations qui ont été faites là-dessus sont dangereuses, mais voilà.
Mm-hmm. Mais là, on entre dans la matière dense des sciences politiques qui est riche et intéressante. Ouais. On ne dit pas périphérique chez nous, on dit suburbs. Mais suburbs, ça couvre des différences vastes entre les suburbs très riches, parmi le tout, et puis la périphérie dans le sens peut-être français, mais qui est néfaste aussi comme mot, je comprends. Il y a bien sûr red states, blue states, ça c'est quelque chose de primordial et simpliste. Parce que si on regarde de près, ça ne joue pas sur beaucoup de différences. Peut-être ça peut être 5 ou 10% dans beaucoup de cas, beaucoup d'États. Et bien souvent, c'est vrai que les zones rurales sont plus, et de Moyen-Ouest sont plus à droite. Et les grandes villes sont bien souvent, même dans le Moyen-Ouest, plus à gauche. Mais j'ai tendance de dire c'est tellement varié et complexe qu'il faut éviter de généraliser dans ce sens-là. Pour moi, je ne sais pas toi.
Mais la montée en généralisation est toujours extrêmement risquée et pourtant, de temps en temps, on en a besoin raisonner, pour faire des hypothèses, pas pour forcément considérer que c'est réducteur. Hein. Oui. Moi, c'était juste une question comme ça. Mais provoquer la discussion.
C'est vrai qu'il faut de toute manière toujours tenir compte de l'ancrage local, de l'ancrage territorial, et ça se combine avec les autres variables, parce qu'on a nos facteurs individuels et puis on a des facteurs contextuels. Avec Michelin, on avait travaillé pour montrer que les ouvriers dans un département gaulliste, ils votaient plus gaulliste que les ouvriers dans un département communiste. Donc il y a un effet du contexte et un effet d'individu. Il y a le problème de Guilly qui a raconté n'importe quoi et qui a exagéré cette dimension centre-périphérie. Non, mais et il y a plein de travaux de géographes, d'historiens et de sociologues pour montrer que ça dépend de quelle périphérie.
Exactement.
Et que ça peut être vrai. Je viens de voir une thèse, il faudrait que je vous envoie, elle a été soutenue, une très bonne thèse qui compare l'effet centre-périphérie dans le Nord-Pas-de-Calais et du côté de Fréjus en PACA. Et il a fait un travail de bénédictin, il a fait des entretiens, il a fait du porte-à-porte, il a analysé les données depuis région, département, ville, commune, bureau de vote. Donc un travail vraiment fantastique pour montrer que ça dépend. Dans le Nord, c'est pas la même chose que dans le Midi, c'est pas les mêmes, que c'est pas toujours l'effet périphérique qui joue, que ça peut être des gens en centre-ville, notamment dans le Pas-de-Calais. Donc que le vote Le Pen, parce que c'est ça qui l'intéressait, ça dépend du centre et de la périphérie. Ceci dit, il y a plein de travaux aux États-Unis en ce moment pour montrer le sentiment d'abandon des gens qui vivent loin des grandes villes. Et il y a des travaux intéressants aussi en France avec Jérôme Fourquet, qui essaie de montrer plus concrètement à quoi ça correspond. C'est pas la distance kilométrique, c'est le fait de se sentir abandonné parce qu'on n'a plus de commerce, on n'a plus de poste, on n'a plus de machin. Et ça joue. Mais c'est pas la même chose que centre-périphérie et ça ne se traduit pas nécessairement par un vote d'extrême droite. Ça dépend qui on est et où on est.
J'ai une question, mais ce que vous disiez, Fourquet, là, j'ai assisté quand il faisait la présentation des résultats, ils montraient en fonction des lignes de chemin de fer et, oui, des, et des gares,
des
notamment en Seine-et-Marne. Enfin, vous voyez, et alors le vote, enfin bon.
Oui, c'est génial. Alors,
et ça pouvait être des gens qui avaient une voiture, une couche, ouais. Ce que nous on considérerait comme des couches moyennes, et qui même si elles vivaient en ville, vivraient plutôt bien, quoi. Oui. Mais qui se sont. Enfin, voilà. Donc il y a là des éléments. Moi, je réfléchissais à cette question de la dualisation.
Oui.
Parce que dans le fond, c'est un problème politique majeur pour des gens qui ont une culture classique, culture politique classique, puisqu'elle nous, elle nous pose un problème. Par exemple, je pensais à toutes les questions maintenant qui viennent sous une certaine formulation. Par exemple, on parle maintenant de pauvreté. Or, ce n'est pas tellement un langage de gauche, la question de la pauvreté.
Non, c'est, oui, hein, je suis d'accord.
Bon, et on le voit bien, enfin, alors, donc on voit bien le problème politique auquel on est confronté. Quand Macron fait un plan pauvreté, enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, mais voilà. L'assistanat, cette question de l'assistanat, ce que vous avez dit, les Roms, ils ont plus facilement un appartement. J'habite Montreuil.
D'accord.
Donc, moi, je suis inscrit pour avoir un appartement. Enfin, pas moi, hein. J'entends ce qu'on entend sur le marché, ailleurs. Hein. Donc, et eux, là, ils arrivent et ils ont un appartement. C'est dévastateur. Mais bon, une question, c'est aussi celle de... Quand on utilise, des gens comme moi, je pense, c'est pas le seul, le mot précarité, je pense spontanément à la précarité dans le travail, c'est-à-dire la primauté des CDD sur les CDI. Spontanément, alors, après, quand je vous écoute, je fais bouger le curseur. En même temps, on est dans un thème où il y a une sorte de forme d'intégration de la précarité à travers l'idée de la mobilité, de la sécurité dans la mobilité. Donc on est aussi dans un débat politique, enfin des débats qui deviennent très politiques, puisqu'il y a la question de l'adaptation. Et que c'est une façon aussi d'intégrer la question du déclassement, par exemple. Qui donc pose un problème particulier pour aborder cette question-là.
Parce genre, qu'il y a il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot.
Oui, là, c'est une vraie une mobilité réduite, mais il peut y avoir de mobilité plus longue. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une chose qu'on connaissait alors, depuis Blair, depuis le débat des années 90 sur la société du travail plutôt que la société de l'assistance. Ouais. Alors, bon, ça, c'est plus ancien, ça, on a plus l'habitude. Mais par rapport aux questions nouvelles auxquelles on est confronté et que vous disiez, je pense qu'il y a deux éléments dans ce que vous avez dit qui sont, en tout cas, extrêmement importants du point de vue de la compréhension et après des conséquences qu'on peut en tirer. C'est effectivement la différenciation et le fait que calculer à partir des inscrits ou calculer à partir des montants, ça change complètement. Moi, je vois, si je prends les élections à Montreuil, si on fait les études par quartier, par exemple, on prend le Montreuil, c'est pas pareil si on prend les inscrits ou si on... Donc ça, je pense que c'est très important pour pas avoir des raisonnements définitifs sur les classes d'âge, sur les personnes. Par contre, après, il y a une vraie question, quoi. Globale, une question qui concerne tout le monde dans la société. Comment ils se positionnent par rapport à ça. Et donc, ça m'intéresse d'avoir un peu quels sont les angles, en fin de compte, que vous considérez qu'on pourrait... sur lesquels, vous-même, vous mettez l'accent pour sortir, justement, de cette question du rejet par l'assistanat, enfin de cette dualisation, quoi. Parce que ça, je pense que c'est vrai pour la France, parce que c'est qu'on ressent tous, parce qu'on trouve que les questions sont très difficiles à régler, au moins, même surtout quand on parle avec des gens, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, mais enfin, que l'autre, il ait plus de choses que vous, que lui, il a le droit de pouvoir se faire les dents alors que vous ne les avez pas, etc., alors qu'il y a les effets de seuil.
C'est ça.
Je pense que c'est aussi, je pense que c'est peut-être un débat qui, sous une autre forme, peut se trouver aux États-Unis. Les oppositions. Alors là, ça y a en plus, en incluant la dimension raciale, enfin, la dimension de race. Et voilà. En tout cas, c'est une interrogation que j'ai par rapport à ce que vous avez dit et la situation dans laquelle on est, y compris en intégrant la dimension 2017.
Alors justement, il y a plein de travaux aux États-Unis qui sont sur l'effet des politiques publiques. Est-ce qu'elles créent ou non de la solidarité? Et donc, il y avait des travaux, je ne sais plus comment elle s'appelait, Suzanne, tu la connais, Suzanne, pas Meller, Müller, enfin bon, il y a des travaux, je peux retrouver le nom, SOS, lui c'est Richard SOS, S-O-2-S, mais en tout cas, ils ont travaillé pour montrer que quand on a une retraite qui va être donnée à tout le monde, ça crée un sentiment de solidarité, ça crée du civisme, ça crée une conscience citoyenne chez les personnes âgées qui arrivent à un moment où elles touchent un certain revenu. Et bon. Tandis que quand on a l'aide sociale, là, et ça, ça donne l'idée qu'on est assisté, l'envieux, et les Noirs américains sont un exemple type. Il y a l'idée, eux, ils touchent l'assistanat sans rien faire. S'ils voulaient, ils pourraient se débrouiller. Tous les travaux de Snyderman sur le racisme, la manière dont ça mélange à la fois des considérations de valeur sociale et économique et de mérite. Ils ne méritent pas. Et donc, je pense qu'un des vrais problèmes, il fallait créer le RMI et le RSA, mais le problème, c'est que c'est indémerdable l'effet de seuil. À partir du moment, là, vous aurez les gens qui sont juste au-dessus et qui voudront... Il faut... de ce point de vue-là, on a chez nous, on a Bruno Palier qui travaille, c'est un des co-auteurs du livre sur la dualisation, et il montre que le système suédois, avec tous ses défauts, est quand même plus universaliste, et que ce système-là est mieux d'un point de vue d'une formation d'une conscience citoyenne, même s'il n'est pas parfait, quand on touche tous la même chose. Et je ne vais pas rentrer dans les débats sur le revenu universel, il y a des tas de manières de le concevoir. Mais à partir du moment où vous avez cet effet de seuil, c'est foutu. Et Castel le montre très bien, et on le voit dans nos entretiens, mais c'est absolument terrible. C'est dévastateur. Et donc, il faut quelque chose qui soit... si tout le monde y a droit, ce n'est pas facile à faire. Mais on démolit ce sentiment que, en fait, ils n'ont pas droit. Donc, et la dualisation, elle est fondamentale. Ça, mais là, ça va augmenter. Alors, il y a plein de travaux qui travaillent à partir des risques, non pas à travers la situation proprement dite des personnes, mais le fait d'être dans des boulots à risque. On sait que les gens vont avoir peur de tomber parce que pour l'instant, moi ça va, mais mes enfants et le groupe. Donc il y a plein de travaux. Ça, c'est le bouquin de. C'est quelqu'un qui s'appelle Siya Hauserman, Hauserman. Elle a énorme. Et Schwander, Schwander. Elle est suisse et ils ont fait des boulots formidables pour montrer le rapport à la redistribution, le rapport à la syndicalisation et le rapport au vote maintenant. En fonction des insiders-outsiders définis par le risque professionnel. Mais c'est trop petit parce que, en fait, Castel nous montre que c'est le travail qui structurait la société salariale. Il y en avait qui avaient un boulot, qui avaient un emploi, et donc ils pouvaient faire vivre les autres. Et c'est ce lien qui a été cassé. Donc, on ne peut plus travailler uniquement sur le travail.
Et vous, ce lien, il se casse à partir des années 70 ?
Des années 80. Il faut du temps pour
comprendre. Et à la fin des années, oui, je pensais.
D'ailleurs, à partir des années 80, je pense qu'on n'est jamais, retombé sous un niveau de chômage de moins de 7%. Moi, quand je suis rentrée sur le marché du travail, il y avait 200 000 chômeurs en France. C'est un autre monde.
Vous avez dit Hauserman, c'est ça?
Hauserman. S-I-L-J-A. Je peux vous montrer. Mais il faut lire le bouquin de Siya Hauserman et Schwander, il y a des travaux absolument passionnants sur...
Vous parlez de quelqu'un qui a écrit sur la dualisation.
C'est le bouquin dans lequel elle a écrit. Donc, si vous, voilà, Hauserman, vous avez à la fois Hauserman, Siya, Varieties of Dualization, Labor Market Segmentation and Insider-Outsider Divide. Voilà. Et le livre de Patrick Emeniger, Siya Hauserman, Palier Bruno, Patrick, c'est celui-là. Vous avez à la fois leur chapitre et le livre.
Que vous pouvez redonner.
Mais oui, dès qu'il sera fini, parce que.
Palier Bruno, d'accord, c'est Oxford University.
Peter Hall, c'était Varieties of Capitalism.
Varieties of Capitalism.
Les variétés du capitalisme.
Ah, oui, d'accord. Ah, the changing face of inequality in the deal with us.
Oui, mais dès que j'aurai fini mon papier, il est censé être rendu pour le 30. Donc je vais vous envoyer. c'est demain, quoi. Et
Daniel, tu vas
après, vous
ça,
pouvez le circuler.
Si ça.
Ah,
ça
oui, bien sûr. Ouais. Ben, dès qu'il est publié, nous, on peut le faire circuler.
Et même, on peut le faire circuler avant, mais dites, en disant de ne pas le publier.
Oui,
tout
ben,
suite,
non,
tout
mais il vaut mieux que vous nous disiez à partir, on le
travaille
à partir
cours,
de temps.
Ouais. Ouais. Je peux vous envoyer la biblio, ça mange pas
oui,
de temps.
Oui, ça, oui, ça, c'est bien. Je prends juste la note.
Mais il y a plein de travaux sur ça. Et ceux de l'INSEE sont intéressants. Moi, j'adore les travaux de Amos et Chardon. Donc il y a des tas de travaux convergents.
Regarder, attends, je suis désolé, après je suivrai le reste, c'est Oxford.
Puis je peux vous envoyer, j'avais fait un autre bouquin quand j'avais commencé à travailler sur les pauvres, Bring the Poor Back In, dans lequel il y avait...
The Poor?
Bring the Poor Back In, ramener les pauvres au centre du tableau. Et j'avais fait Il y a aussi une bibliographie, et puis il y a d'autres travaux. Je peux vous montrer, c'est plus sur les inégalités, celui-là. Oui, j'étais encore plus sur les inégalités que
très
sur...
Très inégalités, avec Marc. Hein.
Très sur les inégalités.
Moi.
C'était toi, tout le livre.
Non, ce n'est pas un livre. C'est un article dans EPS.
D'accord.
Mais dedans, il y a des bibliographies plus conséquentes. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que c'est génial, on n'a pas besoin.
Mais lui, c'est un...
Hein, c'est un moderne.
Qu'est-ce qu'il y a? Il nous oblige à tout enregistrer.
Ben, ça va beaucoup plus vite.
Le titre de Donia, c'est un jeu de mots sur un autre, un livre qui a été fait il y a longtemps, par une Américaine, qui a dit aux Américains, il faut quand même se souvenir de l'État. Donc,
Bring
the state back in.
Ah, bring the poor back in.
Voilà, ah, d'accord. Exactement. C'était
les oubliés de l'histoire.
Bring the state back in. Mais il y a plein de travaux. Et puis le bouquin qu'on a fait avec Céline, c'est vraiment un bouquin qui nous a marqué parce que personne n'avait jamais fait ce genre d'enquête auprès des grands précaires. Et on a gardé des liens avec eux, on est retourné, on fait une nouvelle étude sur ce qui se passe dans la boîte noire de l'assistanat, comment on travaille avec ces associations. Et le livre, les entretiens, ils sont à craquer. Et ça s'appelle Les Inaudibles, avec Céline. Et on a travaillé, comme on n'a pas obtenu les crédits de l'ANR, on a été premier collé, on a fait une enquête pauvre, on l'a appelé Vote pauvre d'ailleurs, et on a fait les entretiens nous-mêmes et avec nos étudiants, et on a eu un tout petit financement de Sciences Po, mais qui nous a suffi pour acheter 10 minutes dans le sondage post-électoral pour mettre l'indicateur EPIS. Et puis, on a fait les entretiens, l'analyse nous-mêmes, et on a beaucoup appris en les faisant nous-mêmes. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'était long.
Les Inaudibles, c'est ça.
Les Inaudibles, ça, c'est un bouquin qui nous a marqué.
L'offre politique.
Et du coup, les propos de Macron, c'est vraiment une baffe dans la gueule. C'est un peu tard, son plan pour vous.
Oui.
Et puis, une bonne partie des gens qui sont pris en charge par les petits frères des pauvres, par exemple, mais ils sont éclopés de la vie. Il est hors de question qu'ils retrouvent un boulot, même s'ils le voulaient. Je veux dire, il faut voir le taux de maladies, d'addictions diverses, de tout un tas de problèmes psychologiques. Je veux dire, je vous enverrai là le deuxième papier. C'est à partir des dossiers des petits frères des pauvres, on aura des problèmes de confidentialité. Donc ça, on verra comment on règle le problème. Mais la plupart d'entre eux sont trop éclopés pour jamais retrouver un travail. Jamais.
Oui, on le voit. Vous avez dit au détour d'une phrase comme ça, une question qui a été, à un moment donné, qui a été à la mode, puis de, bon, ça va et ça vient, mais sur l'idée que les précaires seraient une nouvelle classe. On a eu ça.
Là, c'est Guy Standing.
Voilà. Et alors, bon, je pense que c'est un peu sorti des radars maintenant, mais il y a eu quand même, à un moment donné, une tentation, on dit, la classe ouvrière est finie, c'est plus comme ça que ça se joue entre les inclus, etc. Je trouve que c'est moins présent, peut-être que ça ressortirait. Mais ça rejoint, enfin, une chose que vous avez dite, et après, ça demandera sans doute à être suivi. Indépendamment du vote, comment ces femmes et ces hommes peuvent s'identifier à quelque chose qui peut influer sur la société? Je parle indépendamment du vote. Hein. Pour le moment, c'est très éclaté.
Oui, il n'y a pas de sentiment d'identité. Ouais. Sauf quand même, quand on était en période de grande mobilisation électorale, l'air de rien, ils suivent. Ils s'imprègnent, ils connaissaient les candidats. On avait apporté une photo avec les 11, 10 ou 11 candidats. Ils les reconnaissaient, au moins les 6 gros candidats, ils connaissaient très bien. Ils suivent. Hein. Donc, en fait, c'était l'occasion pour eux de se rattacher au débat public. Et en fait, ils se définissaient contre. C'est quand même assez facile. Enfin, il y avait quand même, chez certains, un début de solidarité. Ils disaient « nous les pauvres ». Nous, les petits, nous, ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Nous, donc, c'était une solidarité flash qui allait passer très vite dès qu'ils commençaient à parler des assistés ou des Roms ou des Maghrébins ou de tous ceux qui n'aimaient pas, chacun ayant d'ailleurs son bouc émissaire. Mais il y avait un moment, l'élection était un moment de grande mobilisation qui permettait d'être un peu à l'unisson du reste du pays.
Et de suivre. Surtout, excusez-moi. pensez surtout aux élections de 2012 et 2012.
Alors 2017, c'est tellement plus complexe que...
Donc, je pensais que j'avais dit 2007.
Oui, 2012 et 2007. Moi, je les ai suivis en 2012 et là, on sentait vraiment ce qu'on a entendu sur Sarkozy chez nos enquêtés, là, et sur tous les hommes et les femmes politiques. Et avec une certaine sympathie pour Marine Le Pen en disant, moi, je suis née en Algérie, je n'ai quand même pas voté pour Marine Le Pen. Mais enfin, quand même, je l'admire, cette femme-là, parce qu'elle est courageuse. Et puis, elle, au moins, quand elle parle, elle comprend ce qu'elle dit. Et il y avait... l'idée... il y en avait qui étaient idéologiquement proches d'elle, notamment certains en Seine-Saint-Denis qui ont le sentiment que Saint-Denis, c'est plus leur ville, que... ils ne s'y reconnaissent plus. Mais il y en avait qui disaient, quand même, elle a un dynamisme, elle a quelque chose, la classe politique qui est au pouvoir... Ils sont trop loin. Ils sont costumes-cravates. Elle les changeait des costumes-cravates. Je ne pense pas que Macron les change beaucoup des costumes-cravates.
Et ça, c'est profond. Ce sera durable.
Oui. Mais pour le moment. En politique, il ne faut jamais dire jamais. C'est Napoléon III qui dit en politique, il ne faut jamais dire jamais. Bon. Et donc, ça peut changer. Il suffit de si peu de choses pour faire changer. Nous, ceux qu'on écoutait en 2012, ils avaient tellement de choses à dire. On se disait, il suffirait de si peu pour les conduire au bureau de vote, quoi. Parce qu'ils avaient suivi, ils avaient des idées, ils avaient des choses à dire.
Mais quand on a fait, quand on a fait la campagne à Montreuil, j'ai gagné avec un maire, maire communiste. Mais bon, c'était la campagne. Hein. On a vraiment. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans la ville, quoi. Dans la campagne.
Et peut-être d'ailleurs, le Front National, il fait
autour de 10%. Oui. Quoi.
Au niveau local, c'est plus facile de mobiliser les gens parce que.
Je dis pas qu'on a la solution.
Ils sont moins rejetés, les maires.
Moi, je voudrais vous poser une question, pas méthodologique, mais c'était au début de chacun où vous avez parlé, des questions de politisation et dépolitisation. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'indicateur électoral suffit. L'indicateur de participation, non-participation, suffit pour caractériser le phénomène de politisation ou dépolitisation. Évidemment, poser la question comme ça, c'est déjà émettre un doute. C'est facile, j'ai bien conscience. Parce que toute la description qui est faite, c'est de la décrédibilisation. À la fois du personnel politique, mais aussi de l'opération électorale, du processus électoral de longue date aux États-Unis, pour une partie de la population, cette décrédibilisation. Est-ce que pour la France, il n'y a pas persistance parfois, c'est ce que vous venez de dire qui m'y fait penser, et puis d'autres, une série d'études, d'une sorte de conscience ou d'intérêt pour la politique, alors même qu'on ne vote pas.
Ah, bien sûr.
C'est pas la même chose. Absolument. Que d'affirmer à l'occasion d'un non-vote un désintérêt ou même un manque de culture ou de caractère, de même de positionnement par rapport à la politique.
Vous avez raison. Même les plus précaires, il y en a quand même 70% qui vont se déclarer proches d'un parti politique, il y en a quand même 40% qui vont dire qu'ils s'intéressent à la politique. Enfin, l'intérêt pour la politique, il n'a pas chuté d'une certaine manière, globalement. Il y a plus d'intérêt pour la politique aujourd'hui que dans les années 50, je dirais, lié au niveau d'instruction et machin. Mais on peut être en colère contre la politique, ne pas aller voter, mais s'intéresser à la politique, bien sûr. Oui. Autrement dit, ceux qui ne vont pas voter, il y a de fortes chances qu'ils s'intéressent moins à la politique. Oui. Et ceux qui vont voter, qui s'intéressent plus à la politique. Voilà.
Mais ceci posé, il reste
quelque chose.
Est-ce que ça fonctionne comme ça
aux États-Unis? J'ai posé la question tout à l'heure. Oui. D'autres formes de participation, mais tu as répondu.
Parce que j'avais en tête les mouvements sociaux. Oui. Mais il y a d'autres manières, et je pense que la démocratie locale, ça, c'est encore quelque chose. Pas les formes officialisées de participation, budget, tout ça, on sait bien, il y a des travaux là-dessus, c'est pas vraiment, ça touche pas vraiment les choses profondes. Mais toutes les choses qui sont sur le mode, je pensais à une association Graines de France, ou les mêmes voisins malins, enfin tout un tas de choses qui sont du style, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la vie? Parce que la politique, bien sûr, c'est pas les élections et c'est pas seulement les mouvements sociaux. La politique, c'est vivre ensemble. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ensemble? Est-ce que j'ai quelque chose en commun avec mon voisin? Est-ce qu'on peut améliorer la vie au jour le jour? Et ça, ça passe par des expériences de démocratie locale. Et c'est pas de démocratie au sens large, de vie politique locale. Et c'est pas un hasard si les maires ont quand même une bien meilleure image au palmarès de la classe politique, c'est les seuls qui s'en sortent.
Non, parce que ça renvoie aux pratiques de la politique elle-même.
Oui.
Parce que dans la mesure où ce que vous dites a un sens aujourd'hui, une partie souvent de la critique et de la critique à l'égard des partis, c'est pas simplement qu'ils ne tiennent pas leurs engagements. Oui. Je pense que pour la gauche, ça a été fondamental dans la perception, dans le décrochage à l'égard du Parti socialiste, ça a été totalement fondamental. Mais il y a aussi le fait qu'on ne les voit pas vraiment sur le terrain quand on a besoin d'eux, où ils ne sont pas là, etc. Il y a aussi cet aspect des pratiques politiques. On le voit à la veille des élections.
Oui, ils disent la lumière, leur permanence, c'est un mois avant l'élection, puis après, pouf, disparu.
Et donc les partis de la gauche, je pense aussi par exemple au Parti communiste, qui pendant longtemps avait une influence qui passait notamment par toutes les organisations
relais
du logement,
du
mouvement syndical, des locataires,
des syndicats d'abord.
C'était des relais très puissants, très importants.
Oui, mais c'est ça qui manque justement.
Oui.
C'est ça qui a manqué au PS, de toute manière, qui n'en a jamais eu beaucoup.
Voilà.
Et c'est tout ça qui s'est cassé, oui. C'est tout ça qui s'est cassé la gueule. Donc, en fait, quand on parlait de tricoter et de détricoter, c'est important parce que c'est du lien social. Et Castel, là, il a raison, il touche là où ça fait mal. On a des gens qui se retrouvent totalement sans lien social, culturel, complètement déconnectés. Les jeunes le sont beaucoup moins. Les jeunes sont connectés, ils ont des problèmes de précarité matérielle, mais ils restent connectés. Et d'une certaine manière, c'est moins dur à vivre et ça peut favoriser un comportement de colère et donc de vote et donc de moins apathique.
Je dirais quelque chose sur les États-Unis. D'abord, avant, le mot connecté me pense aussi à connecté dans ce sens-là.
Oui.
Là, ça prend une énergie, un temps assez grand pour beaucoup de monde, les jeunes peut-être surtout, mais c'est une autre discussion, l'impact politique sur tout ça. Mais je ne dirais pas que participation, disons, civique ou civile, soit forcément politique. Parce que chez nous, il y a une quantité, là c'est au fil classique, une quantité d'activités où les parents, surtout les familles, c'est très important, parents d'élèves,
le
sport sportif et d'autres choses, mais les autres choses aussi en parallèle, où on participe, mais ils sont pour la plupart assez, bien sûr, rien, tout est politique dans un sens, mais quand même, ça a très très peu de liens avec, sûrement pas les partis politiques, qui n'ont pas ces réseaux dont vous savez bien en France, et qui assez rarement prend position, pas toujours. Il y a, par exemple, quand il y a le vote, la loi sur la santé Obamacare, il y avait une mobilisation par des associations qui n'étaient pas jusque-là, pas des lobbies ni politiques dans le sens classique, mais qui se sont entrées en force. Mais en tout cas, il y a ce tissu, mais j'aurais tendance à penser aussi que ce ne sont pas les précaires qui participent là-dedans. Donc, il faut rendre compte de ses limites.
Je vous propose, Madame, je vous donne tout de suite.
Non,
c'est pour. Je propose que chacun.
Je peux attendre 30 secondes.
Non, non, mais ce que je propose, c'est qu'on fasse un tour de table, comme vous disiez, et que on sache finir une réunion.
Il faut savoir finir.
Voilà. Excusez-moi.
Non, du point de vue de la politisation ou de la dépolitisation, qu'est-ce que vous pensez de l'événement de Nuit debout? Est-ce que ça peut renouveler la politique ou pas, ou Ou c'est fugitif et ça disparaît et...
Je pense que rien n'est fugitif et ça va laisser des traces chez les participants. Comme toute manif, tout événement, on constate 10 ans après que le virus de la politique, il est né là, dans ces réunions. Mais mes grands précaires, ben, ils n'étaient pas là.
Non.
Sauf si quelqu'un des petits frères des pauvres y était allé, les avait emmenés. Ils sont allés à une ou deux manifs de solidarité après les attentats, je sais. Mm-hmm. Mais pour le problème, mais c'est pareil pour voter, Céline Braconnier l'a montré très bien avec Jean-Yves Dormagin dans un livre sur l'abstention en banlieue. Pour aller voter, il faut que quelqu'un vous accompagne, il faut que vous ayez une dynamique autour de vous. Et donc ces réseaux-là sont très importants. Donc il y en a beaucoup qui auraient aimé aller à Nuit Debout, mais si personne n'est venu les chercher, ils n'y sont pas allés. Donc je pense que c'était quand même plutôt un télo, le public de Nuit Debout. C'est plutôt les précaires intermittents du spectacle, ceux sur lesquels travaille Florence Joshua. Mais ce n'est pas les grands précaires qu'on a vus, nous. Et c'est pas la maman célibataire qui déjà n'arrive pas à trouver de quoi garder ses enfants quand elle cherche un boulot, alors elle va pas aller à Nuit Debout. Donc il faut bien voir que dans ces situations différentes, il y a des gens qui n'ont pas du temps, tout simplement, pour aller à ce genre de choses. Et qui auront peur de s'y sentir étrangers. C'est pas notre monde. Donc c'est difficile.
Christelle ?
Serge, tu as
T'as de la réserve, mais tu la gardes pour toi encore un peu. Vous voulez dire un deux mots ? Puis après, voilà. On se dit au revoir et au revoir.
On se dit au revoir. C'était
non,
sympa.
Pas que. Pas que.
Mais c'était très riche.
Non, pas que.
Ah, le téléphone, il n'a pas qu'à tomber.
Ah oui, non, j'ai pas dit qu'on se dit au revoir comme ça, mais
non, juste je félicite Nona parce que je crois que c'était une formidable.
Attends qu'ils soient terminés, mais bon. Non, mais ça m'a obligé à bien.
Tant mieux.
L'histoire des inscrits, là, c'est un truc qui revient souvent. Je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Ouais.
Non, on se dit pas. Oui, on se dit au revoir quand même. Mais
j'espère.
Non, mais je dis peut-être vos articles.
Dès que je peux vous envoyer ceux qui sont déjà écrits,
y compris à ceux qui ne sont pas là. Bibliographie, ça, je pense, peut-être un peu sélective ou non.
Non, je vous envoie le tout, comme ça
tout,
vous ferez
le prix. D'accord, hein.
De toute façon, là,
c'est
mal tapé, c'est bourré de fautes, c'est pas encore au propre, mais ça le sera assez vite. C'est La démocratie de l'abstention, le bouquin de Céline et Jean-Yves Dormagin, qui est très bien, qui est très intéressant, qui vous montre des banlieues, la démocratie de l'abstention. Alors, ils ont pris un bureau de vote et ils l'ont suivi pendant une dizaine d'années, et ils montrent très bien que des communes qui étaient hyper participatives du temps de la belle époque de la ceinture rouge et du parti communiste, c'était la cité des cosmonautes pour ne pas la nommer, et bien sont devenues hyper non participatives, et que ceci dit, après les émeutes, enfin les mouvements sociaux de 2005, après les violences de 2005, il y a eu un sursaut de participation, elles ont voté plus que la moyenne nationale, donc même l'abstention, elle est, enfin plus que jamais, l'abstention est conjoncturelle, elle reflète. Il y a des moments où il y a eu tout un effort pour remobiliser les banlieues. Et ça a marché, mais ça n'a pas duré.
Peut-être, je ne sais pas si ça rentre dans le sujet, hein. C'est la partie qui me tient à cœur. C'est-à-dire qu'il y a des moments historiques où il y a un certain nombre de possibilités d'inverser la tendance pour les acteurs qui ont des responsabilités à jouer, notamment du côté des forces organisées, sociales, politiques, etc. Soit ils la saisissent, soit ils la saisissent pas. Et là, après 2005, il s'est joué quand même pas mal de choses pendant 2-3 ans. Quoi.
Ouais. Et c'est retombé.
Voilà.
Et du coup,
je dis ça par analogie avec la période contemporaine. Là,
on est plutôt dans un moment populiste, on pourrait dire.
Oui, ce sera le deuxième épisode de la discussion.
Pardon ? Oui.
Le camarade ami de Colombie, de Bogota, l'université de Bogota.
L'étude telle qu'il était faite se penche plus sur la précarisation individuelle comme phénomène individuel, où on peut le mesurer tant en France qu'aux États-Unis, comme au niveau de foyers domestiques, comme tel. Mm-hmm.
On a des données sur le foyer. C'est-à-dire, quand on travaille sur la personne, c'est le revenu par unité de consommation, le revenu mensuel du foyer divisé par unité de consommation. Donc on sait quel est le... Parce que le revenu tel quel ne veut rien dire. Et en fait, le revenu tel quel ne veut rien dire si on ne tient pas compte du patrimoine. C'est bien pour ça que l'indicateur demande si vous êtes propriétaire de votre logement, parce qu'on peut avoir un revenu qui vous met sous le seuil de précarité, si on a le logement gratis. C'est pour ça que c'est la pauvreté purement monétaire ne veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment se méfier. Ouais. Mais donc, vous avez raison, il faut resituer non seulement l'individu dans sa famille, mais l'individu et sa famille dans un contexte territorial. Parce que la précarité, c'est pas la même chose à Fos-sur-Mer et à Lens. Ou à, tout ça change. Ouais. Donc, vous avez raison.
Merci beaucoup, Nona.
De rien, merci de m'avoir invité.
Merci à Marc aussi.